Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une conversation qui dure une heure. Avec les artistes ce soir, c'est avec Christian Ezzo.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler,
ça y est, je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Christian Rizzo.
S'il y a un toit, ce n'est qu'une structure. S'il y a un ciel, ce ne sont que des preuves de lui. S'il y a une terre, elle est d'abord un tas. Et s'il y a des humains, il faudra voir comme ils dansent. Votre dernière création, Christian Rizzo, s'appelle Une maison, tout en minuscule. Et moi, j'y ai vu une attente. L'attente que ça grandisse, éventuellement. Une maison comme un corps qui croît depuis l'intérieur. Une maison corps abstrait, mais organique, qu'on observe évoluer sans être sûr de rien, sans faire trop d'hypothèses. Il y a 14 interprètes et leur grande singularité est autant soulignée que leur capacité de construire quelque chose en commun. Lumière, musique, terre battue, obscurité zébrée de néon. Une maison se joue le 15 février prochain à Aix-en-Provence, les 20 et 21 février à Bruxelles, les 27, 28, 29 février au Théâtre National de Chaillot à Paris et le reste sur notre site internet. Bonsoir à vous, Christian.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Je dis au passage que vous êtes le directeur de l'ICI CCN de Montpellier. Ça fera probablement partie de notre discussion. Pourquoi pas à la fin? Mais il se trouve qu'en ce moment, France Culture traite de ce qu'on appelle des questions de politique locale aux échéances municipales 2020. Ça vous dit quelque chose?
Absolument, on est en plein dedans. Donc, voilà. Je vois bien de quoi il s'agit.
Mais peut-être on commence par parler de la création.
Oui.
Hein, ça vous va comme ça?
Absolument.
Bon, avec une voix d'artiste qui s'appelle Dominique Gonzalez Foaster et qui parle des êtres et des espaces.
Les personnages sont aussi des espaces et en fait les êtres sont des espaces. Une manière, on revient à l'idée du théâtre de la mémoire, mais une manière de penser l'être, c'est ou de penser le corps, c'est aussi de le penser comme un espace et forcément un espace qui s'identifie aussi à d'autres espaces. Donc il y a des qui se visitent aussi. Moi, j'ai l'impression quand je suis dans des périodes de préparation, d'apparition comme ça, j'ai vraiment l'impression de rentrer quelque part.
Avoir l'impression de rentrer quelque part, c'est ce qui se passe normalement quand on assiste à un bon spectacle, à une bonne création, ou quand on entre dans une bonne maison, Christian Rizzo. On entendait ici cet artiste parler des êtres comme des espaces, y compris des espaces qui se visitent. On peut dire que c'est un thème qui travaille votre pensée chorégraphique depuis des années, mais là, c'est affiché avec ce titre-là. Il est arrivé comment, ce « Une maison » en minuscule ?
Bah, les titres arrivent toujours très tôt en fait, c'est-à-dire c'est comme une promesse que je me fais à moi-même, mais je ne sais pas de quoi est fait ce titre en fait, donc c'est quelque chose qui va résonner le temps de me mettre au travail et plus particulièrement d'attendre le moment que j'appelle être au travail, c'est-à-dire de rentrer en studio avec toutes les personnes que j'aurai convoquées. Donc pour moi j'ai besoin d'un temps comme ça qui fait que je suis pas quelqu'un qui prépare à l'avance trop le travail. Je dirais que je suis plutôt un artisan, donc j'ai besoin d'être les mains dans le cambouis directement. Et pendant ce temps-là, en fait, ce titre comme ça tourne et j'essaye de comprendre pourquoi. D'abord, je vais essayer de comprendre pourquoi cette pièce s'appelle comme ça en la faisant. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un endroit auquel je crois beaucoup, qui est l'endroit de la révélation du spectacle, par le processus, c'est que c'est cette chose-là qui va m'aider à comprendre pourquoi j'ai donné ce nom à quelque chose qui n'avait pour l'instant pas de forme, qui était une intuition. J'aime bien dire que c'est une promesse, en fait, que je me suis fait d'abord à moi, avant de lui donner une forme. Donc, ça apparaît en général, très souvent par la lecture, qui est une grande activité chez moi. Donc, je lis. Pendant très longtemps, c'était des phrases comme ça, arrachées à des livres. Et puis,
vous voulez dire les titres des spectacles?
Voilà. Mmh. Donc, on a eu vraiment des titres à rallonge, qui étaient des phrases comme ça, qui se décrochaient par elles-mêmes, et qui venaient titiller quelque chose qui était une forme de nébuleuse, et qui, voilà. Donc, je disais, ça va s'appeler comme ça. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je me dis, j'en sais rien, en fait. Et c'est à partir de là, justement, que quelque chose s'active, en tout cas, entre une espèce de parcours inconnu, en fait, qui est là, qui s'entame, et ce titre. Voilà. Qui n'arrive jamais, pour moi, à la fin. C'est-à-dire qu'il ne vient pas conclure, en effet, un processus, et qui viendrait, donner le nom à quelque chose, mais le nom préexiste à la forme.
Et alors, ça ressemble à quoi? Puisque vous dites, finalement, je ne prépare pas mon travail. N'empêche que vous décrivez un espace de latence, de réflexion, de rêvasserie, je ne sais pas ce que vous faites.
Absolument.
Il y a des choses qui se déposent dans cet espace entre le moment où vous choisissez une maison et le moment où vous entrez en répétition, vous travaillez avec les interprètes. Ça prend quoi comme forme?
Alors, c'est vrai que moi, il y a quelque chose à laquelle j'entendais parler Dominique González-Foster sur la question d'espace. Et moi, j'ai besoin de savoir, même si je ne sais pas ce qui va avoir lieu, j'ai besoin de savoir où est-ce que ça va avoir lieu. Donc, en fait, je préfigure un espace qui va accueillir, en tout cas, les danseurs, les compositeurs, l'éclairagiste, etc., qui travaillent avec moi. Donc, automatiquement, je commence à dessiner, dans un premier temps, un espace. Dans ma tête, d'abord, ça commence à être il y a quelque chose de vague, mais qui se précise. Donc, en l'occurrence, pour une maison, je savais que je voulais, à un moment donné, coincer les corps entre de l'organique et de la technologie. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose, mais quelque chose avance. Finalement, cette technologie était que je voulais un objet lumineux, quelque chose de sculptural, qui serait fait de fragments, mais qui constituerait un tout, puisque toute la pièce est constituée là-dessus, sur l'aller-retour entre le détail et le tout. Comment les deux se renseignent, en fait. Et à partir de là, j'ai dessiné cette espèce d'objet que j'ai commencé à lancer d'abord en 3D, puis après en construction. Donc, en fait, je commence à concevoir un lieu d'accueil. Voilà.
On va essayer de décrire, pour les personnes qui nous écoutent, c'est une sorte de grande canopée, comme ça, qui ou bien nous apparaît comme une structure. Elle nous apparaît parfois comme une structure très dénudée, presque ferrailleuse, et parfois elle nous apparaît vraiment comme la manière dont on pourrait relier des étoiles entre elles, si on a la chance d'être au mois d'août en pleine montagne, par exemple.
Oui, je crois qu'il y a toute une polysémie, en fait, dans cet objet-là, qui est à la fois un toit, une conque, un ciel potentiel totalement virtuel, en tout cas, un objet comme ça, mais qui est dans un premier temps, avant d'être un objet unique, en fait, est un objet qui est déployé dans l'espace, en fait, et qui va être rassemblé petit à petit par tronçons, en fait, et qui est vraiment l'enjeu de là où se conduit aussi l'électrique. Pour moi, c'était très important, en fait, dans toute la création, de penser que tout le travail allait être fait de fragments qui n'allaient être reliés que par le vide. Parce que finalement, c'est ça qui m'intéressait le plus. C'est le vide comme conducteur avant qu'un objet unique apparaisse. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à... Enfin, en tout cas, que j'ai dessiné en tout cas l'objet au démarrage. Et que dans le montage de sa construction et l'attente que j'en avais aussi, je voulais ce lieu, en tout cas, pour pouvoir accueillir les danseurs pour entamer le processus. Qu'ils soient déjà pris dans cet objet-là, en tout cas.
Le vide, y compris entre les êtres, puisque une partie de la pièce, une maison, ça va être qu'est-ce qui est possible de faire exister entre des êtres qui arrivent seuls, par groupe, par grappe de deux, trois, qui vont peut-être à un moment donné danser à 14. Le vide comme vraiment un espace de potentialité. Mais avant qu'on en vienne à ces corps-là, restons un petit peu Christian Rizzo sur la maison. Une maison, alors c'est un fragment littéraire presque, c'est un fragment aussi qui appelle à plein d'imaginaires. Vous arriviez avec quoi comme imaginaire autour de ça?
Alors, je savais que c'était pour moi un lieu qui avait à voir avec la mémoire, en tout cas. Pour moi, une maison, c'était un endroit où on rassemble sa mémoire pour aussi la partager dans l'intimité.
Mais comme nos greniers, quoi, par exemple ?
Oui, comme nos greniers, mais c'est aussi les corps, beaucoup les corps, surtout. C'est-à-dire comment c'est un espace de mémoire et donc de transmission et donc de différentes temporalités, c'est-à-dire ce qui a lieu là avec des désirs d'avenir et une présence de passé, c'est-à-dire qui potentiellement a peuplé ou dépeuplé aussi cet espace. Puisque comme c'est pas la maison ou ma maison, c'est une maison de façon aussi abstraite, en fait, en tout cas, un objet comme ça qui est au-delà de moi, en tout cas en dehors de moi. Et donc il y avait vraiment cet enjeu-là, en tout cas, des comment être aussi en action, dans des actions qui sont abstraites, mais aussi des actions fictionnelles et des actions de témoins. Voilà. Et comment ces corps-là pourraient passer de ces trois états, en fait, voilà, de façon très fluide et dynamique. Et donc, j'avais ça. Et puis, il y avait cette question, en effet, de forme d'intimité qui m'intéressait, mais qui a à voir avec le toucher, en fait. Et je savais que je voulais travailler toutes ces danses au regard de toucher, de façon à ce qu'on soit pas, que les corps ne soient jamais initiateurs du mouvement et qu'il n'ait jamais la conclusion. Donc d'être constamment en fait traversé, et donc il y a eu tout cette pensée au démarrage, en effet, de vouloir travailler tous les corps en contact, et une fois que les danses étaient écrites très en contact, de séparer les corps et de laisser après actif en fait le vide qui les séparait.
Avec la mémoire dans ce vide de ce qui les a un jour unis.
Absolument.
Bon, laissons entrer les fantômes.
Je pense que le fait qu'on pense qu'il y a les allers-retours possibles. Et finalement, ça nous ouvre la possibilité de, justement, d'inviter les morts comme personnages. Et je pense que c'est aussi pour ça que non seulement de la poésie, bon, bien sûr, surtout la poésie, mais, comme vous le savez, enfin, dans le théâtre, dans No, de Kabuki, il y a toujours, c'est peuplé de fantômes. Et en fait, quand on dit fantôme, c'est pas un genre à part. C'est comme on dit, l'humanité, c'est trop abstrait, mais en fait, ça fait partie de nos personnages. C'est tout à fait naturel pour nous, en tout cas, les Japonais, de mettre les personnages, mortes, qui font les allers-retours, comme nous aussi, en fait, parfois, on s'absente à la maison, quelques jours, et puis, on revient. Pour nous, les Japonais, à la fois de façon littéraire, ou bien dans la vie de tous les jours, parler de ces... Bon, on est bien d'accord, ce sont des absents, quand même. Enfin, même si ce sont des revenants, mais ce sont des absents. De parler de doux n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'en France, dès que je parle de ce genre de choses, on me traite, je ne sais pas, de d'occultiste, des gens un peu bizarres. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans les livres en français, je mets un peu de façon exprès cette présence des absents, c'est un peu bizarre de dire ça, mais et voilà. Et aussi, donc, ce qui nous intéresse, donc la nourriture des morts, c'est une façon de dire que d'un côté la nourriture, d'un côté les morts, ça paraît deux opposés complètement, en fait, qui ne se rencontrent pas. Mais si, en fait, si, parce que justement, s'ils peuvent faire les allers-retours, il faut quand même partager quelque chose entre les vivants et les morts. Et qu'est-ce qu'on partage ? La nourriture.
Ben voilà, ça paraît clair, non ?
C'est parfait. C'est absolument parfait.
C'est la voix de Ryoko Sekiguchi, qui est une autrice et poétesse, qui était là au micro d'Alain Krugère dans l'émission Ne parle pas la bouche pleine sur France Culture. Finalement, le lieu de tout ce qu'elle décrit, à la fois les allers-retours, la manière dont on est traversé par des présences, traversé par des absences, la manière dont on partage de la nourriture avec les vivants et avec les morts, ce pourrait être une maison. Christian Rizzo, c'est difficile de regarder votre pièce, y compris avec des espèces de flashs comme ça, de No aussi, de danse de masque, enfin bref, sans penser que cette maison, elle est gentiment, mais clairement hantée.
Absolument. Mais je suis très content en fait d'avoir entendu cette parole là, parce que il y a deux mots en fait qui me sont extrêmement chers, qui sont fantôme et nourriture. Donc
voilà.
J'ai l'impression que j'aurais pu
sur un plateau
voilà être derrière en parlant de ça, parce que en effet la question en tout cas de l'absent pour moi est très présent en fait, c'est-à-dire que c'est une façon aussi de concevoir la question du vivant en fait toujours, c'est-à-dire que pour moi c'est une autre façon en fait de continuer à entretenir une relation. Voilà, avec l'absence, et donc de ne plus être une forme d'absence finalement, de lui redonner une autre forme en fait de dialogue constant.
Et ça depuis toujours. Vous avez avec la présence, quelqu'un qui chorégraphie les corps, c'est quand même quelqu'un qui a affaire avec la présence, toujours conjugué ou toujours lié fortement l'absence.
Mais oui, parce que déjà, c'est-à-dire que je crois que le corps du danseur est déjà un lieu de mémoire d'autres corps. C'est-à-dire que de venir dire « je », ça ne veut pas dire grand-chose à part de dire « je suis fait de », etc. Donc, que ça soit de la danse, mais que ça soit aussi des contacts de corps qu'on a, des contacts amoureux, il y a tout ça pour moi est très inscrit, en fait. Et c'est ça qui est révélé par la présence, en fait. C'est-à-dire, c'est ça qui est remis en présence constamment. Donc, de fait, ces absences, on les incarne en fait. Moi, n'importe quel mouvement que je commence à faire, je sais que ce bout-là vient de cette rencontre-là, etc. Et que c'est devenu après une espèce de grammaire anatomique qui s'est inscrit et qui m'intéresse en tant que langage chorégraphique. Mais je sais aussi qu'il est fait de plein d'autres. Et ce plein d'autres, moi je le porte, mais chaque danseur aussi qui travaille avec moi le porte aussi. Donc je crois que c'est ça aussi qui est convoqué, même dans ce travail que j'appelle de révélation chorégraphique, c'est-à-dire le moment où d'un coup quelque chose va apparaître qui me paraît tangible. Je crois que c'est cet aller-retour comme ça entre leur présence en direct que je peux observer et ce que eux-mêmes sont obligés de convoquer pour que une forme advienne, en tout cas, à mon regard. Donc ça, ça a toujours été présent, en tout cas, dans mon travail, puisque la première pièce que j'ai, une des premières pièces, en tout cas, que j'ai faite, c'est une pièce avec personne sur scène. Donc c'est quand même ces deux, on va dire, deux corps absents, puisque c'est juste deux robes siamoises, en fait, qui traversent un théâtre, mues par de la ventilation. Je l'ai pas fait comme ça au démarrage, mais bon, c'est une pièce qui a une vingtaine d'années, et je crois que j'avais inscrit finalement une espèce de manifeste comme ça, et depuis je cherche les corps qui habitent ces fantômes. Donc je fais le truc à l'envers en fait, et du coup je pense que je l'ai inscrit, mais parce que je crois que c'est très lié à des, voilà, je crois que je ne supporte pas l'idée de néant. Vraiment, c'est une chose qui m'est insupportable.
Mais le vide, oui.
Mais le vide, absolument. Donc, je dois bien essayer de m'en sortir comme ça, en effet, en essayant de conjurer l'idée du néant. Voilà. Et en disant, ben non, l'absence continue à être, au contraire, quelque chose qui a un potentiel devant, quoi.
D'ailleurs, votre maison, Christian Rizzo, elle n'a pas de mur.
Non.
C'est-à-dire qu'elle est vraiment, quand je disais, moi, je l'ai vraiment vécu comme une attente, mais au sens d'une attente pas tellement temporelle, mais comme une attente qui serait un animal qui attend qu'il se passe un truc, quoi. Une attente du qui-vive, en fait. Et ça c'est possible quand on n'a pas trop bâti.
Après, même, pour moi, l'idée même du bâti, je dirais que ce qui m'intéresse dans une maison, finalement, c'est pas tant les murs, c'est les ouvertures, en fait. Et je considère très souvent les murs comme pour tenir les ouvertures, en fait. Donc, bon, ça, c'est un peu mon truc. Je suis toujours en train de regarder la contre-forme des choses. Et c'est vrai que c'est un endroit c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, je crois qu'il y a cet endroit-là, c'est que je ne regarde que les ouvertures. Voilà. Le mur est entre les ouvertures, en fait. C'est juste ça, en fait.
Et là, c'est le vide qui est autour de mon ordi.
Voilà. Exactement.
C'est pas mon ordi qui est dans le studio.
Non, c'est ça, mais en fait, ça serait juste le mur. C'est-à-dire tout ce que, même quand on vient de faire un mouvement, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est en train de finalement de sculpter constamment, en fait, ce vide-là. Et je pense que c'est ça, pour moi en tout cas, le goût du mouvement, en fait. C'est de sculpter constamment, en fait, ce vide-là dans sa contre-forme. Pas tant la forme qui apparaît, la forme aide, mais d'observer, en fait, ce vide qu'on est en train de triturer, mais pratiquement de façon comme un sculpteur qui pourrait travailler la matière. Et voilà, je m'éloigne de la question de la fenêtre, mais en tout cas, ça va avec. Et c'est vrai que cette maison, elle est finalement en attente aussi, puisque de toute façon, elle ne viendra pas, puisque c'est plutôt une maison à l'envers. Le projet étant de passer plutôt de l'architectural, de l'architecturé, au terrain. Donc c'est plutôt une pièce montée à l'envers, une pièce montée à l'envers.
Ça, il faut dire pourquoi quand même, parce que la manière dont on part d'un signe, un signe visuel qui nous emmènerait dans l'imaginaire vers l'architectural, c'est parce qu'il y a cette espèce de canopée de néon dont on parlait tout à l'heure, qui en effet laisse apparaître pour nous une idée du bâti. Et ce vers quoi nous allons progressivement dans votre pièce, Christian Rizzo, c'est un plateau de théâtre entièrement recouvert de terre battue, sur lequel les danses vont venir vraiment s'inscrire, laisser des traces, mais donc éventuellement effectuer un retour à la terre, quoi.
Oui, pour moi, il y a un petit peu de ça, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait avant le bâti, en fait? Parce que je crois pas que, justement, pour moi, une maison, c'est une question architecturale, en fait, finalement. C'est plutôt la relation qui m'intéresse. Et finalement, dans les répétitions, très vite, j'ai dit, mais ce qui m'intéresse, c'est faire maison. C'est-à-dire de être ensemble, en fait. C'est ça, pour moi, finalement, ce que je pourrais appeler aujourd'hui une maison après l'expérience de cette pièce. C'est plutôt home que house en anglais, par exemple. Cette différence, c'est là où on pense être ensemble. Voilà. Mais, en effet, pour faire advenir, en tout cas, dans cette pièce-là, la présence d'un fantôme qui, pour moi, est là depuis le début. Finalement, toute cette pièce est là pour le faire arriver, en tout cas.
Vous voulez dire qui? Quoi? Quel fantôme? Débarque?
Ouais.
Vous voulez dire?
Non.
Non.
Ben non.
Avant qu'on arrive à la nourriture, je voudrais qu'on reste sur cette idée de faire maison ou de être ensemble. Parce que il me semble que là aussi, vous êtes en attente. Vous partez pas du principe que ça va marcher. Vous partez pas du principe que vos 14 interprètes, ils vont faire maison ou ils vont faire communauté. J'ai l'impression que c'est comme si on vous voyait attendre que peut-être ça marche.
Mais il y a beaucoup de ça parce que d'abord, je pense que si c'est très lié au processus de travail et aux gens avec qui j'ai décidé de travailler, puisqu'en effet, il y a 14 danseurs, il y a pratiquement 40 ans de différence entre le plus jeune et le plus âgé, donc 3 générations de danseurs, donc des histoires de danse absolument insensées, donc il n'y a pas de langage commun. Et donc, je crois que pour moi, toute cette pièce, c'était d'aller extraire presque le squelette de chacun, en fait, qui pourrait être ce langage-là, pour avoir un langage commun. Mais ça prend du temps, en fait. Donc, il y a une espèce de transmission aussi dans cette pièce où chacun transmet en direct, comme ça, des bribes de quelque chose pour finalement arriver à un moment donné à ce que tout le monde ait le même langage. Et à partir de là, en effet, on peut commencer à rentrer dans une certaine forme de communication.
Mais vous voulez dire transmettre, c'est-à-dire que pendant les moments de répétition, il y a vraiment des bouts de danse qui ont été appris d'un danseur à un autre danseur, d'une danseuse à un autre danseur,
absolument.
Etc., etc.
Absolument, en fait. C'est-à-dire qu'on a un peu comme on fait une réduction de sauce, c'est-à-dire qu'on commence comme ça, et petit à petit, on le met au travail pour réduire et garder, en fait, finalement, juste le goût, on va dire, de quelque chose, ou une saveur, une texture. Et pour moi, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que quand on a travaillé tous les corps, donc très enchevêtrés, par duo, par trio, par quintette, etc. Mais une fois qu'on a explosé la totalité, le matériel de danse est revenu comme un matériel très solitaire, très esselé, c'est-à-dire quelqu'un bouge, hop, je bouge juste la tête, je me mets à faire des espèces de mouvements absolument qui pourraient ne pas avoir de sens, sauf c'est parce que d'un coup, j'étais en train de prendre quelqu'un qui est en train de me mettre au sol, et tout ça se fait à distance, les duos et les trios continuent à opérer comme ça, mais en même temps, j'avais rentré la possibilité que pendant qu'on travaillait, de pouvoir glaner en fait des bribes de mouvements qui apparaissaient dans le regard et les intégrer en fait dans sa propre danse. Donc par répétition et donc par accumulation, il y a des choses à la fois qui se sont accumulées et des choses qui se sont soustraites pour finalement commencer à avoir en effet cette espèce de langage commun qui est apparu de, je dirais pratiquement de lui-même en fait.
Mais qui nécessite de l'espace ou qui nécessite de la distance entre les êtres.
Absolument, absolument.
Vous croyez que c'est la seule manière d'avoir un langage commun, c'est d'avoir un petit peu de place, quoi?
Mais en tout cas, c'est de comprendre cette place pour pouvoir la franchir, si on le veut. Mm. C'est ce que j'aime beaucoup, par exemple, on entendait une voix japonaise tout à l'heure, mais j'aime beaucoup quand on est au Japon aussi, cette façon de se dire bonjour avec cette distance, on se file les cartes comme ça. Donc je trouve qu'on marque une espèce de territoire comme ça, qui est entre nous, dont on ne sait pas trop de quoi il est fait, et ensuite, après, on peut le franchir. Et moi, j'aime beaucoup, en fait.
Pas trop vite, quand même.
Non, mais au Japon. Mais quelles que soient, en fait, voilà, les questions de durée, tout ça, je trouve que, pour moi, je ne peux pas observer de toute façon un corps s'il n'est pas il n'habite pas un espace, en fait. C'est-à-dire, sinon, pour moi, c'est trop... Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Et je ne sais pas, j'arrive pas, même quand je ferme mes yeux, je ne peux pas penser un corps s'il n'est pas pris dans un espace. Et finalement, c'est cette image, presque comme une image photographique, en fait, que je garde. Il y a toujours un corps, mais dans un corps, il y a peut-être un mur, il y a peut-être une lumière qui arrive, il y a un arbre, il y a un sol. De toute façon, c'est jamais un corps comme ça qui est en suspension nowhere, quoi. C'est-à-dire dans une espèce de vide absolu. Donc, déjà, pour moi, c'est pas ce corps que je regarde, mais c'est l'espace, en fait, que génère ce corps et comment l'espace dialogue avec ce corps et comment il lui renvoie sa position, en fait. Donc, je suis toujours dans cette chose-là. Et c'est à cet endroit-là que je crois que je compose, en plus, véritablement. Je crois que c'est le lieu de l'écriture, pour moi, il est dans cet écart-là.
Je serais curieuse de savoir, là, comme ça, en vous écoutant, Christian Rizzo, depuis quand vous avez cette manière de les regarder ? Les corps, parce que finalement, ça semble comme ça énoncé avec évidence, mais tout le monde dans la rue ne regarde pas les corps de cette manière-là.
Non, peut-être, mais je sais pas, je trouve que, par exemple, quand on voit une action, mais même des actions très, je sais pas, on va dire un couple s'embrasse, voilà, qu'on voit, on peut voir dans la rue. Suivant où ça se passe, pour moi, spatialement, cette action-là peut prendre complètement un autre sens, c'est-à-dire que c'est pas juste l'action presque très factuelle, c'est parce qu'il y a un environnement, pour moi, que je vais observer cette action et que je crois que je vais y mettre une projection fictionnelle, en fait. Et je crois que c'est ça, en fait, que j'observe tout le temps. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, j'en ai un peu moins maintenant, hélas, mais par exemple, à rester des heures dans la rue, à voir comment les gens... c'est quoi le mouvement quand les gens se promènent, par exemple. J'adore, quand j'arrive dans des villes, de me dire « Ah, j'aime ou j'aime pas le mouvement des gens ». C'est-à-dire, c'est pas telle personne, je perçois comme ça une espèce de façon de se mouvoir dans l'espace, de laisser des places entre, où est-ce que les gens se cognent, etc. Et en fait, c'est ça que je regarde. C'est pas, je dirais, la personne pour elle-même, c'est plutôt cette espèce de mouvement, en fait, qui est produit. Et je crois que je suis très sensible à ça, mais peut-être que ça vient du fait que, je dessinais. Bon, après, j'étais quelqu'un qui dessinait, qui a fait de la peinture, puisque je suis passé par la ville à Arson. Et très vite, j'ai senti que la question du cadre me coinçait, en fait. Et je sentais qu'il fallait que je regarde à l'extérieur du cadre pour pouvoir, moi, ensuite, recadrer. Finalement, je suis resté un petit peu en dehors. C'est comme ça que je passais de l'installation à l'installation avec mon propre corps en train d'installer, de rendre ça visible, jusqu'au moment à enlever petit à petit les objets, et finalement d'avoir un corps qui était en train de lui-même dealer avec l'espace. Mais comme on est ici, c'est-à-dire qu'on a un plafond qui est un peu bas, automatiquement mon corps, il est déjà dans un autre état.
Redressons-nous.
Mais du coup, se redresser, on sent que d'un coup, il y a déjà un renvoi. Voilà, il y a un renvoi de... Voilà, il y a une compression comme ça. Et voilà, c'est ça que j'observe. Mais je pense que c'est ce que j'observe dans la... Quand je dis que je suis passé du dessin à la peinture, hein, dehors, c'est que je suis passé plutôt peut-être de la 2D à la 3D, en fait, à l'espace cultural plutôt que l'espace pictural. Et que quand je vois une sculpture, la sculpture en tout cas qui m'intéresse, c'est parce qu'elle produit de l'espace, en fait. C'est pas tant de regarder l'objet en tant que tel, mais c'est comment, en fait, elle se déploie, en fait, dans l'espace. Donc voilà, mon œil se balade dans ces écarts-là.
Il faut rendre compte des corps et du décor. Mais à chaque fois, c'est différent. Moi, je commence à travailler sur un spectacle quelquefois des semaines ou des mois en amont de la première répétition sur l'espace. Et je travaille cet espace, c'est-à-dire la maquette qu'on m'a donnée avec les plans du décor qui va s'inscrire dans une cage de scène. Et à partir de là, je fais un travail de géométrie. On part du noir et la moindre bribe de lumière est déjà un événement lumineux. Donc c'est infini. Comment dire ? Il y a le travail sur l'ombre, sur les ténèbres est beaucoup plus vaste et riche que la pleine lumière. Parce que une fois que vous avez fait un plein feu, là il y a une limite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez allumé tous les projecteurs que peut comporter un théâtre, vous n'irez pas plus loin. Et vous n'irez pas plus loin dans l'imaginaire. Alors que l'inverse, c'est tout le contraire. Vous partez des ténèbres, vous partez du noir, et là, l'imaginaire, c'est infini.
Bon, c'est pas n'importe quelle dame de la lumière quand vous
entendez
Christian Rizzo. Ici Dominique Bruguère, Au micro de Joëlle Gaillot, dans l'émission Changement de décor en 2012 sur France Culture, elle avait fait paraître, si mes souvenirs sont bons, un petit livre chez Actes Sud où elle parlait de son rapport à la lumière. Donc une personne qui travaille la création lumière, par exemple en danse, pour qu'on puisse quand même vous entendre sur les choix. Vous disiez, pour moi ce qui est important c'est d'abord de dessiner un espace, il semble que là... C'est un espace qui soit aussi dessiné par la lumière.
Absolument. D'abord, il faut savoir que je travaille avec l'éclairagiste Cathy Olive depuis 20 ans. En fait, on s'est construit ensemble. Donc, c'est une vraie... on avance ensemble, en fait. Je dirais dans la façon de révéler, d'observer. Et c'est vrai que depuis quelque temps, je construis en fait des objets lumineux que je confie à Cathy pour voir en effet comment elle l'appréhende. Voilà, la question de la lumière au travers de ces objets-là. Donc, par exemple, plus particulièrement sur une maison, avant même de travailler avec les danseurs, on a travaillé la lumière. C'est-à-dire, quand je disais, on travaillait l'espace qui allait accueillir les danseurs pour le travail, on avait déjà préparé aussi des états lumineux. C'est-à-dire, on avait vraiment commencé à dire, ben là, ça, c'est une intensité, il y a quelque chose, il y a une épaisseur, il y a une chromie. Voilà,
alors, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure de la peinture, c'est comme si vous prépariez des fonds, en fait.
Ouais, c'est pas que des fonds, parce que c'est des dynamiques aussi. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec Cathy sur la question de la vibration, en fait, de la lumière, la dynamique de la lumière. Donc, c'est à la fois, en effet, c'est de l'espace aussi. C'est-à-dire qu'on cherche une lumière qui est épaisse. En fait, qui n'est pas là que pour éclairer, ni la danse, ni l'espace, mais qui a sa propre autonomie. Et plus particulièrement dans ce projet, l'idée était d'avoir une lumière qui était véritablement chorégraphiée, c'est-à-dire qui avait, puisqu'il y allait avoir cette danse qui allait être dessous, je voulais aussi une danse, en tout cas de lumière, un principe chorégraphique en fait d'écriture, qui aurait sa propre dynamique aussi elle-même spatiale. Donc ça a fait tout un travail en fait avant même en effet que les danseurs plongent dans ce lieu-là.
Alors pour illustrer ça, simplement redire que cette grande structure qui est faite pour nous de néons qui s'allument, s'éteignent ou baissent en intensité en alternance, quand vous parlez d'un principe chorégraphique, c'est que toute la structure n'est pas tout le temps plein feu.
Ah non, non.
Parfois, en fait, comme je disais tout à l'heure des constellations, mais parce que c'est une analogie qui est intéressante pour les personnes qui n'ont pas vu votre spectacle, c'est qu'il y a vraiment des formes comme ça qui vont se créer dans notre ciel ou dans notre maison et qui vont s'enchaîner selon un principe chorégraphique. Mais vous faites la distinction entre un principe chorégraphique et la danse.
Absolument.
Ça, c'est quelque chose qui est assez important quand même dans votre pensée. Vous pourriez développer?
Ben, je crois que pour moi, la danse, c'est... tout le monde danse, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si on met de la musique là, on se lève, on danse en fait. Voilà. Voire même on va écrire de la danse parce qu'on peut répéter, puis on va s'arrêter en fait sur des mouvements. Mais pour moi, c'est l'enjeu chorégraphique qui s'arrête pas là en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment ces danses-là sont écrites avec l'espace, avec la lumière, avec du son. Donc c'est quelque chose que je mets toujours en question, cet enjeu de chorégraphique. C'est-à-dire c'est comme... Si on prend l'exemple entre un instrumentiste et un compositeur, on voit très bien la différence. Mmh. Voilà. Pour moi, c'est à peu près pareil entre la chorégraphie et la danse. C'est-à-dire
que la chorégraphie serait du côté du compositeur.
Oui, et la danse serait du côté des danseurs, en fait. C'est-à-dire que... Et c'est marrant parce que je trouve que c'est un mot, par exemple, qui a disparu pratiquement, l'enjeu du chorégraphique, en fait, au profit de la danse, en fait. Et ça, moi, je rappelle toujours, mine de rien, sur la façade en fait de l'Opéra de Paris, il y a pas écrit danse en fait, il y a écrit chorégraphie par exemple.
Mais vous pensez que danse par exemple, ce serait quoi, plus diffus, plus commun?
Pour moi c'est une autre pratique en fait, la danse, que l'écriture en fait, que la composition. Pour moi dans ma tête, et quand je le vois, ça se ferme sur le corps en fait. C'est-à-dire qu'il m'arrive de voir des pièces par exemple, je me dis bon, ça c'est une pièce de danse. Mais pour moi, je peux pas appeler ça une chorégraphie, en fait. C'est-à-dire, c'est une pièce de danse par des danseurs, faite par des danseurs, où je sens que seule la question du geste, ça s'intéresse au geste-là, à la composition, voilà, comment ça se passe. Mais à l'intérieur du corps, je trouve que ça ne compose pas avec l'espace environnant, en fait. Et pour moi, l'enjeu chorégraphique, il est vraiment à cet endroit-là. C'est-à-dire comment l'espace est inscrit dans le corps et comment le corps s'inscrit dans l'espace. Et là, on commence à travailler pour moi dans ce que j'appelle en tout cas chorégraphie.
On entendait Dominique Bruguière dire que quand on est tout de suite à plein feu, quand on a poussé tous les projecteurs possibles d'une salle de théâtre au maximum, on a une limite, on est vraiment arrivé au bout de ce qu'on pourra produire du point de vue de la lumière et donc de ce qu'on pourra engendrer du point de vue de l'imaginaire, alors que quand on part depuis les fonds de l'obscurité, il y a l'infini des possibilités. Il se trouve que c'est plutôt de ce côté-là que vous commencez, Christian Rizzo, pour ces mêmes raisons, pour des questions de rapport à l'imaginaire.
Alors oui, sauf que nous on fait le principe inverse en fait, c'est-à-dire que moi je préfère à la limite qu'on allume tout et qu'on commence à éteindre. C'est-à-dire que moi, je trouve un des meilleurs outils d'écriture, c'est quand même la gomme. Donc, je préfère à la limite qu'on mette tout et qu'on commence à gommer et qu'on voit qu'est-ce qui apparaît par soustraction.
Dans la même logique de sculpture, en fait, que
absolument,
vous avez
montré
depuis le début de l'entretien, quoi.
Je crois que j'ai une façon comme ça de... C'est parce que moi, j'adore, on commence, allez, on met tout, on met la terre, on met les costumes, on allume la musique, on fout la musique à fond, on allume tout. OK, on a ça. Et ça, c'est, on sait que c'est la limite. Donc, à partir de là, on va descendre. On va commencer à voir, en effet, si on va creuser, en fait. On peut creuser différemment. On peut partir, en effet, du noir, commencer à dire là. Mais aussi, on peut creuser à l'inverse, c'est-à-dire par la soustraction. Et moi, j'aime beaucoup ce travail-là par la soustraction, en fait. C'est un endroit où je me sens... c'est là où j'arrive à un moment donné à arrêter en disant « ça me paraît juste ».
Parce que ce serait comme « soustraire égale préciser » ou soustraire égale avancer vers l'écriture.
Oui, je crois que ça aiguise quelque chose en fait. Pour moi, c'est un peu bon. Je pense toujours à la cuisine parce que c'est une chose.
Mais très bien, en parlons-en parce qu'on l'a complètement laissé tomber.
Moi, la cuisine en général, ben voilà, je commence à mettre des trucs. Je mets tout. Ça m'arrive comme ça. Puis je goûte, je retire. Alors qu'on pourrait dire, ben on rajoute. Très souvent, j'adore en fait se sentir par. Quand je faisais des vêtements, c'était pareil, par exemple. Je commençais toujours à quelque chose qui était assez confus et je taillais dedans, voilà, pour faire apparaître les couches qui sont dessous, alors que j'aurais pu au contraire travailler comme ça par je sais pas, transparence ou ramener des choses. J'aime bien trouer, creuser, déchirer, ouvrir. Je pense toujours aux toiles de Fontana que j'adore, c'est-à-dire il y a ce truc-là, il y a un monochrome comme ça, et d'un coup, on ouvre, et qu'est-ce qui s'ouvre ? Par soustraction en fait de la toile, cette ouverture, il y a un monde qui apparaît. Et ça, moi, ça me fascine, en fait.
Est-ce que c'est la même chose qu'on peut décrire quand on parle de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire faire des danses, les faire d'abord serrer et coller, et ensuite creuser à l'intérieur même du principe chorégraphique pour faire entrer du vide?
Oui, et puis aussi abandonner, laisser tomber, oublier. Qu'est-ce qui reste, en fait? C'est ça que je pense que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'est-ce qui reste, en fait? Donc, il faut partir d'abord avec beaucoup, et puis l'éprouver, et de dire qu'à un moment donné, il y a une espèce, je parlais de réduction de quelque chose, mais il y a ça qui arrive, en fait. Ce qui reste, c'est ce qui, je pense, doit rester sur ce projet X. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Christian Rizzo.
Chante un poème de 8 lignes, Christian Rizzo. Juste avant qu'on l'entende, vous disiez finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste. Et je me disais, j'arrive pas à savoir si c'est une question inquiète ou pas.
Moi non plus. Honnêtement, je ne sais pas, en fait. Parce que je me sens à la fois au travail très vers devant, c'est-à-dire, et en même temps, j'ai toujours une mélancolie qui est présente. Donc, je pourrais pas dire, en fait, si c'est vraiment inquiet. C'est, je dirais, mélancolique. Mais il y a de ça, en tout cas.
Parce que la fin de Une maison, on n'est plus vraiment du côté de ce qui reste. Enfin, on a presque liquidé cette question. C'est une sorte de célébration.
Absolument.
C'est un rituel qui finit dans le feu du rituel. Mais bon, là encore, je ne dirais pas comme ça, sûr de moi, que c'est une célébration joyeuse.
Non, c'est un peu en demi-teinte, en fait. C'est vrai que c'est un rituel pour faire apparaître quelque chose qui est là depuis le début, mais qu'on ne voit pas, quoi. Mais on doit passer finalement par le rituel pour le laisser advenir. Donc, pour moi, c'est très demi-teinte parce que quand on l'a cherché, même au travail, des fois, c'est parti en grande bringue de campagne et je sentais.
Il reste un peu ça. Mais il reste un peu de ça. Et c'est super.
Mais il reste un peu de ça
quand même.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce
danse
de
dans
chose
la terre, quoi.
Comme ça. C'est à la fois une danse macabre, mais en même temps, qui est aussi presque enfantine, joyeuse, qui célèbre. En tout cas, ça célèbre.
Et ça célèbre peut être aussi vie. Un reste de rêve parti des années 90 à 7h30 du matin dans
ça,
un terrain vague.
Ça, c'est clair. Mais je pense que ça a à voir, en tout cas, avec... oui, ça, mais aussi des grandes fêtes de village. Pour moi, il y a toujours, de toute façon, depuis quelques années quand même dans les pièces, il y a toujours des références à ces danses-là que j'appelle des danses anonymes, en fait, qui se partagent dans des lieux qui sont pas des danses d'auteurs, en tout cas. Et je crois que j'y trouve justement à l'intérieur de ça à la fois une histoire, un devenir et en effet des restes, quoi, des espèces de reliques comme ça de ma propre mémoire qui sont convoquées à ces moments-là, mais je pourrais pas dire que ça soit inquiet, en fait. Je sens que c'est sur la brèche, quoi.
Mais puisque vous faites référence à des pièces d'avant, je pense à D'après une histoire vraie, où cette question des danses qui ne sont pas des danses d'auteur, mais des danses qui circulent comme ça, qui ne sont pas non plus des danses du folklore, mais des danses d'anonymes, quoi, c'est très bien de le dire. Finalement, est-ce qu'elles sont pas toujours un peu ça, c'est-à-dire très joyeuses, très du côté de vers l'avant, comme vous dites, ou de vers du présent? On peut être aussi dans un bal populaire au fin fond des Côtes d'Armor à 23h30 au mois d'août, quoi. Mais en même temps, c'est mélancolique. C'est mélancolique parce qu'il y a de l'histoire, parce qu'il y a des morts, oui, parce qu'il y a des gens qui ont dansé ces danses-là qui sont plus là depuis trop longtemps ou depuis il y a 2 secondes. C'est quand même mélancolique à cet endroit-là aussi.
Mais oui, parce que je pense que justement, ces façons de transmettre, on transmet de façon quelque chose qui a eu lieu. Donc, c'est-à-dire qu'on amène aussi du passé, et ce passé-là, il se partage, en effet, pour être présent et penser l'avenir. Mais en tout cas, on convoque toujours quelque chose qui n'est pas là. Par en effet, ben, ne serait-ce que, je parlais de ça tout à l'heure sur les corps des danseurs, mais l'apprentissage de quelque chose fait aussi que quelqu'un transmet, et que ça se passe en effet dans des danses d'auteurs ou dans des danses anonymes, mais le fait qu'il y ait à un moment donné transmission, et c'est quelque chose qui est allé chercher dans une histoire, qui est reconvoqué à un moment donné, partagé pour être ensemble, et donc on danse aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on danse toujours sur les cendres de quelque chose, quoi.
Rituel, c'est un mot que vous avez utilisé pour travailler avec vos danseurs et vos danseuses ?
Ouais, depuis toujours, en fait. Mais depuis toujours, parce que j'ai... On reparlait du Japon tout à l'heure, mais quand je cherchais ce que je voulais faire, en tout cas, par quelle manière je voulais travailler...
Vous voulez dire il y a longtemps ?
Ouais, il y a une vingtaine d'années, on va dire. Je ne savais pas... Je regardais des pièces de danse, mais ça ne m'intéressait pas. Pas vraiment. Je voyais des défilés de mode où je trouvais vachement plus de choses puissantes dans la question de la représentation du corps. J'allais voir des concerts ou des installations où je trouvais la puissance du corps vachement plus forte. Donc,
que dans la danse.
Que dans la danse. Et un jour, j'ai eu la chance d'être dans un temple à Kyoto, en fait, de la plantation du riz, pour la plantation du riz, en fait. Et j'ai assisté comme ça à ce rituel, en fait, de plantation de riz. Et je me suis dit, oh là là, c'est ça que je cherche, en fait. Je sens que c'est ça que je cherche. Je ne sais pas ce que je cherche, mais ça a à voir avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait un concert comme ça de musique très, qui tapait une rythmique très, très précise, comme ça, et des gens partaient d'un espace, donc c'est un espace carré, rectangulaire, partant par le milieu et reculant, c'est-à-dire s'écartant et en plantant, en effet, le riz, comme ça. Et donc, ils écartaient, donc il y avait un vide qui grandissait, et arrivait aux extrémités, s'en allait. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Et je savais pas ce que c'était ça. Et donc, voilà, je pense que j'ai cette image, en fait, qui est constamment là, en fait. Voilà, des corps comme ça, qui ouvrent un espace, qui ouvrent un espace, qui ouvrent un espace. Et pour moi, il y a quelque chose. Et ma place en tant que spectateur était pas, j'étais convoqué à assister à cette ouverture d'espace. Mmh. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est là que j'aime être spectateur. Et donc, je voudrais tenter de faire partager mon expérience de spectateur à d'autres spectateurs. Et c'est comme ça que je me suis mis au travail, en fait.
La musique me faisait découvrir des choses, des états physiques et mentaux que je ne pouvais pas imaginer avant de les écouter. C'est-à-dire que j'étais dans des endroits inconnus de mes sensations, de ma vie. Donc ça, je le vis très souvent. Et donc, je pense que c'est aussi peut-être pour ça que je veux, d'une certaine manière, faire le même job, parce que je pense que c'est un job qui peut provoquer des choses très, très profondes. De découvrir, voilà, des choses qu'on connaissait pas, inouïes. Et ça, c'est l'art moderne, c'est l'art contemporain qui me fait ça. Je n'aime pas beaucoup aller je jouis très peu, alors que c'est une grande partie de la jouissance du spectateur, d'aller au théâtre pour reconnaître des choses. Ou spécialement la musique, par exemple. La musique, on va réécouter le concerto pour la xème fois, et on jouit de ça. Moi, la jouissance, elle vient de l'endroit inattendu, que je ne connaissais pas jusqu'alors. Et donc, je me dis, voilà, je pense que j'essaie de produire ça chez les spectateurs.
Je peux écouter ça très longtemps. Comme tout le monde n'est peut-être pas d'accord, je propose qu'on parle, Christian Rizzo. C'est la musique de Cercueil, c'est un extrait de votre spectacle Une Maison. Et juste avant, une archive de Jérôme Bell dans une masterclass au micro d'Arnaud Laporte pour France Culture. Jérôme Bell qui parle justement du choc. Vous parliez tout à l'heure de votre choc devant des rituels dans un temple pour la plantation du riz à Kyoto au Japon. Lui, il parle du choc produit à la fois par l'art contemporain mais aussi et l'art moderne, mais aussi par la musique. Et qu'en fait, ce choc-là, c'est quelque chose qui a à voir avec la découverte de l'inconnu. Ne rien reconnaître. Ou peut-être ne rien croire reconnaître, hein, faut rester,
ouais, quand même.
Rester sage quand même. Il y a toujours la musique qui est quelque part dans votre travail, Christian Rizzo, et jamais à un endroit évanescent ou illustratif. Ce sera à quel endroit pour vous ?
C'est deux choses pour moi. Je crois que c'est à la fois, il y a quelque chose de très mental dans en tout cas le travail de la musique, et en même temps la question de la rythmique, de la pulsation, de la physicalité de la musique, en fait. Donc je crois que je suis toujours entre ces deux pôles là, en fait. En tout cas, quand je travaille avec les compositeurs avec lesquels je travaille, il y a toujours cette discussion, en tout cas, de sol, de gravité, danser sur la musique, pour moi, c'est danser sur l'espace de la musique, pas sur la musique comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire sur la rythmique, etc. Donc, c'est aussi une couche spatiale, la musique, pour moi. Mmh. Donc voilà, donc on est toujours pris entre une chose comme ça, à la fois mentale, je suis toujours avec ces questions de ritournelle qui m'intéressent, donc je suis en train de redire, oui, mais quelle ritournelle pourrait avoir ce spectacle ? Et finalement, la ritournelle, c'est une chose aussi qui est à la fois très mentale, mais si on commence à l'étendre, à la déployer, elle peut prendre aussi l'espace et englober tout. Donc, c'est un dialogue entre le mental et la physicalité, la joie de la physicalité immédiate.
Donc, on n'est pas très très loin finalement de la terre battue qui est comme ça répandue sur le plateau pour devenir la couche spatiale sur laquelle on va peut-être danser à plusieurs. C'est comme si vous pouviez décrire, Christian Rezzo, une musique qui peut se répandre comme ça en fait, dans l'air.
Oui, ben en tout cas la musique circule par l'air, hein, donc moi pour l'audition, donc de fait elle est obligée de prendre l'espace, c'est-à-dire de le creuser aussi. Tout à l'heure je parlais de Fontana par exemple, et c'est vrai que je prends très souvent ça en fait comme exemple aussi quand je travaille avec les compositeurs, c'est-à-dire comment à la fois on commence à constituer un espace presque plein et à l'intérieur on va commencer à creuser, à redonner des dynamiques, des perspectives. Et pour moi, donc, c'est vraiment aussi ces questions musicales. C'est à la fois musical, mais aussi la question du son qui m'importe. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment aussi deux choses en même temps. C'est-à-dire la qualité du son, c'est-à-dire la diffusion, par où ça passe, quel mouvement a le son. Donc voilà, il y a la composition musicale et après sa façon de l'adresser en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment une chose. C'est lié. C'est peut-être pour ça quand je parle de choses à la fois mentales et physiques. Pour moi, c'est vraiment ces deux pôles en fait qui sont constamment en fait au travail, en tout cas quand on est en train de chercher de quelle musique sera faite cette pièce ou avec quelle musique ces danses-là peuvent émerger ou quelle musique aussi produisent la danse. Parce que quand même, il y a quelque chose ça, qui m'importe, c'est-à-dire c'est aussi en observant des fois la danse que la musique vient. Donc c'est la façon en tout cas que j'ai de travailler avec les compositeurs, puis ils sont tout le temps avec moi en fait. Donc tout ça émerge en même temps, c'est-à-dire qu'il y a il y a très peu de séparation. Tout à l'heure, je parlais avec La Lumière, avec Cathy Olive, mais là avec Cercueil, c'est-à-dire que c'est mixé en direct pendant des répétitions. Donc tout ça apparaît en même temps, c'est-à-dire pour moi, tout ça n'est que
mais du corps, alors quoi, tout fait. Ça ne serait que finalement la continuation de ce que vous disiez au départ, Christian Etio, c'est je fabrique un espace. Et donc, je le fabrique avec de la lumière.
Avec des corps.
Avec des corps.
Absolument.
Avec de la terre battue et avec de la musique.
Oui, et puis avec des voilà, c'est comme ça. Et la question de la temporalité va rentrer là-dedans, va commencer en effet à poser comme ça des jalons spatiaux, temporels. Et c'est comme ça que petit à petit, quelque chose apparaît, en fait. Je crois que j'attends vraiment toujours ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai... Vraiment, quand je commence, à part en effet d'avoir dessiné un espace, mais la forme, l'espace étant une des moyens, en tout cas, d'arriver à cette espèce d'objet, j'essaye de voir à quel moment, c'est presque des épiphanies, en fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme ça que je reconnais dans cette espèce de nébuleuse qui n'avait, au départ, 6 mois avant, aucune forme. Aucun corps, aucune dynamique.
Alors vous êtes plutôt dans la team, je reconnais, en entendant Jérôme Bell dire surtout je veux ne pas reconnaître.
Oui, non,
vous diriez je veux reconnaître quelque chose, je veux que quelque chose me fasse signe.
Ben, oui, parce que par exemple, j'entends reconnaître. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui pourrait passer son temps devant la même image, constamment, le même paysage, et d'essayer de voir qu'est-ce qui a légèrement changé, qui fait changer le tout.
Oui, mais ça peut être une route totale vers l'inconnu. On peut rester tout le temps devant une image et n'être en prise qu'avec de l'infini, qu'avec de l'étranger, qu'avec de l'inconnu. La question dans ce que dit Jérôme Bell, c'est est-ce que quand je vais voir quelque chose, j'aime reconnaître des choses ?
Non, parce que là, pour le coup, ça m'est arrivé en fait à certains spectacles, par exemple, de être même plutôt mal à l'aise parce que je sentais que je reconnaissais avec quoi ça avait été fait.
Comme des citations.
Ouais, des citations. Et je sentais qu'autour de moi, bon voilà, parce que venant de l'art contemporain, enfin, je voyais d'où ça venait, et je sentais que cette prise n'était pas la même à côté de moi, et j'étais très mal à l'aise parce que je me suis dit, mais en fait, je suis le bon public pour ça.
Mais avec qui je partage.
Mais avec qui je partage ça, celui d'à côté, et j'ai eu un mouvement de rejet, en fait, là, pour le coup, vraiment de rejet. Après, c'est vrai que moi, j'adore voir des choses où je comprends. Là, il m'est arrivé de voir des spectacles où je me dis, oh là là, je comprends pas du tout comment ils font, qu'est-ce qui se passe, et tout ça. Et j'adore ce moment parce que j'ai l'impression d'aller dans une espèce d'étranger absolu, quoi. C'est-à-dire que je comprends pas la langue qui est parlée, je ne comprends pas. Et pourtant, quelque chose me guide. Voilà. J'ai l'impression que je suis en train de faire un... Enfin, je sais pas si je faisais un parallèle entre pour la peinture, c'est-à-dire que je serais en train de quitter la question de la perspective et je commencerai à cheminer dans les estampes chinoises, quoi. C'est-à-dire que voilà, je passerai par le vide, je serai dans le chemin de quelque chose et pas du tout dans le point de vue, c'est-à-dire la question de la perspective, quoi.
Ce serait un moment rêvé, Christian Rézo, pour vous faire parler de programmation, des gestions de centres chorégraphiques, de comment on guide les gens, de qu'est-ce qu'on programme et tout. Mais on n'a plus le temps.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas moi. C'est bientôt les élections municipales. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire une fois qu'on a dit tout ça, aller vers l'étranger, se laisser guider. Comment ça se passe quand on est un directeur de centre?
C'est-à-dire qu'on essaye de faire, ça, c'est-à-dire de partir ensemble. C'est pour ça que j'ai appelé le projet aussi ici, hein, c'est-à-dire que c'est un territoire qu'on ne construit que parce qu'on y est, donc par invitation, par être traversé, par des propositions qui sont étrangères et qui nous font être étrangers. Et pour moi, c'est une question qui est super importante.
Comment vous le défendez, ça?
C'est pas hyper
à la mode.
C'est pas hyper à la mode, mais en même temps, je crois que j'ai la chance, en tout cas, de c'est entendu parce que la traversée faite par une multitude d'artistes montre en fait qu'il y a autant de possibilités de répondre à cette question-là. Donc après, moi, je pense que le gros problème là, je dirais que, mais c'est peut-être plus large en effet que des questions municipales, c'est la place de la danse aujourd'hui dans la question des pratiques d'art, quoi. C'est-à-dire que je suis quand même hyper étonné d'entendre, ne pas voir le mot culture qui apparaît nulle part, le mot art, alors bon, ça on l'a plus vu depuis super longtemps, et puis la présence de la danse à l'intérieur de ces pratiques artistiques qui n'est entendue que, je dirais, comme une pratique potentiellement amateur, donc cette question de danse, voilà,
festive,
mais la question de vraiment l'enjeu chorégraphique aujourd'hui, je trouve, est un peu abandonné, donc je trouve que voilà, il y a quand même deux lieux nationaux, à part les centres chorégraphiques, hein, qui sont des labels nationaux, mais il y a le théâtre de Chaillot, en effet, théâtre national de la danse, il n'y en a qu'un seul, quand même. Et voilà, le centre national de la danse.
Important.
Après, il y a 19 centres chorégraphiques, il y a je ne sais pas combien de centres dramatiques. Les moyens alloués dans les centres dramatiques et dans les centres chorégraphiques n'ont absolument rien à voir. Par exemple, nous, on fait de la programmation, mais on les fait avec nos ressources propres. On n'a pas d'argent pour faire de la programmation, mais pour moi, c'est un devoir de montrer des œuvres quand même au public. Donc voilà, j'arrive par les tournées à racheter des spectacles et à les montrer à des publics. Et je crois que c'est là-dedans aussi qu'on arrive à être suivi. C'est que je pense que le projet qu'on porte au CCN de Montpellier, c'est vraiment cet enjeu-là. C'est-à-dire, d'un coup, il faut traverser en fait les processus, il faut traverser les œuvres, il faut traverser les pratiques. Et c'est comme ça qu'on essaie de convier, en tout cas.
Non, mais là, chacun. Je vous fais parler vite de questions importantes, Christian Rézo. Il faut que vous soyez réinvité sur cette chaîne avec d'autres gens pour parler de la place, de la danse, de la culture et de l'art.
Absolument. Avec joie.
En France. À bientôt, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Une maison, toutes les dates de tournée sur le site internet franceculture.fr à la page de Parler ton Kipo. À la prise de son ce soir, c'était Sylvain Latu. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Julie Ascal et Romain de Becdelièvre. C'est aussi une page sur le site franceculture.fr et un podcast auquel on peut s'abonner sur l'application Radio France. On les embrasse, les équipes de l'application Radio France. Dans un instant, c'est le journal 22h sur France Culture. Très belle soirée à vous. Why won't you let me?